Oui. Non, non, je racontais que il faut. Je disais à. Alors pourquoi je voulais t'appeler Clovis, ça va plus. Si je disais à Luc que. Il faut comprendre que la haine des Arabes contre les Juifs, contre Israël, est mêlée d'une profonde admiration et d'une crainte à la fois. Pourquoi admiration et crainte? C'est parce qu'ils voient ce tout petit peuple depuis 65 ans qui ne sont pas arrivés à dominer, eux qui sont si nombreux, eux qui sont si puissants, eux qui ont la vraie religion. Ils sentent bien, personne ne le dira. Mais dans la mentalité musulmane, c'est le plus fort qui a le vrai Dieu. Donc pour qu'Israël existe, il faut que son Dieu soit très fort. Voyez, il faut aussi comprendre ça dans la mentalité musulmane. Et c'est pour ça que de plus en plus de musulmans apprennent l'hébreu. Et il faut comprendre qu'ils n'apprennent pas forcément par amour pour Israël, mais par admiration pour Israël. Et il faut aussi comprendre aussi que ça va aussi amener beaucoup d'Arabes à se tourner vers Yeshua. Il faut aussi comprendre que c'est le même phénomène de la haine des nazis contre les juifs. Tous les chefs nazis parlaient parfaitement l'hébreu. C'est une chose qu'on ne sait pas. Quand ils ont été au procès de Nuremberg, plusieurs ont terminé leur vie en parlant l'hébreu, et en disant une parole de haine. Et c'est, il y a quelqu'un qui dit, oui, quelqu'un qui sait cela. C'est une chose que l'on ne raconte pas. Et quand, par exemple, c'est Göring, quand il a été... Göring a été suicidé, non? C'est Himmler ou Göring? Je confonds les deux. L'un des deux a été à l'échafaud, l'autre s'est suicidé. Himmler, je crois, s'est suicidé au procès de Nuremberg. Et l'un des deux a repris la phrase... la phrase de Haman quand il a été tué, voyez, dans le livre d'Esther. Donc, non seulement ils parlaient l'hébreu, les chefs nazis, mais en plus, ils connaissaient la Bible. Il faut bien comprendre que derrière, il faut savoir que Hitler a été le père spirituel d'Hitler, et c'était un sorcier qui se vantait d'être le plus puissant sorcier du monde pour dominer la terre. Hein, il faut savoir cela. Et que derrière l'initiation de Hitler, parce qu'il a été initié par ce sorcier de très haut niveau, eh ben, il y a véritablement la haine de Satan contre le peuple juif. Il faut comprendre ça. Mais ça, je ferme la parenthèse. Ce que je voudrais vous parler ce soir, c'est particulièrement d'Israël, et plus exactement de l'Alliance. Il faut bien comprendre que nous sommes entrés dans une nouvelle saison prophétique. Nous sommes entrés, nous fêtons la 49e année et la 50e année de la libération de Jérusalem. Et là, j'ai eu vraiment une visitation du Saint-Esprit extrêmement fort depuis à peu près un peu moins d'un an, où le Seigneur m'a révélé. Alors, j'ai eu cette révélation, je crois que c'était juste en revenant, maintenant que j'y pense, c'était au mois de mai, je ne sais pas quand je suis venu, maintenant j'y pense, maintenant, c'était juste après vous avoir quitté Aguebviller. C'était en mai, où en quittant Aguebviller, j'ai reçu du Seigneur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la dernière conversation qu'on avait eue l'année dernière. On avait parlé ensemble des 10 tribus perdues de la maison d'Israël. Et peu de temps après avoir quitté Guébiller, le Seigneur m'a donné une vision, une révélation que dans les temps qui viendraient, il allait révéler les 10 tribus d'Israël. Alors ça, c'est quelque chose de très très fort. Parce qu'on peut dire que le 21e siècle, c'est un siècle où Dieu va rassembler l'Église des nations, tout au moins une partie, avec Israël. Et ça, on parle toujours de la réforme de l'Église, on parle beaucoup de la réforme de l'Église, mais on ne voit pas que la moisson va être l'unité, le rassemblement en un seul peuple. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, parce que quand l'Église des nations sera uni à Israël, c'est alors que la moisson sera libérée. Et c'est d'autant plus important qu'il faut que nous comprenions que l'Europe a un contentieux. Il a un contentieux avec Israël, avec le peuple juif, parce qu'il a voulu, il a traité de déicide, il a voulu en faire son propre, le remplacer. C'est toute la théologie du remplacement. Et de l'autre côté, l'Europe a eu aussi un contentieux avec Ismaël, parce qu'Ismaël a toujours été aux portes de l'Europe. Il ne faut pas oublier que des millions d'Européens ont été pris, saisis sur les côtes de l'Europe du Sud par des frégates, musulmanes qui ont pris des hommes, des femmes, et on en fait pendant plus de 1000 ans, 1200 ans, on en fait des esclaves. Il faut savoir qu'il y avait sur la côte sud de la Méditerranée un certain nombre de cliniques où on transformait les hommes en eunuques pour en faire des esclaves. Et ça, ce sont des choses que l'on ne raconte pas dans les livres d'histoire. Il faut savoir que l'islam a été une terrible menace pour les frontières européennes. Et la bataille navale de Lépante entre la flotte vénitienne, mais aussi le soutien des autres flottes de l'Europe du Sud, ont permis une très grande défaite à l'Empire ottoman. Ça s'est passé autour de 1615. Et cela, à partir de 1615, l'influence de l'islam dans le bassin méditerranéen va régresser. Il ne faut pas non plus oublier que si la France, en 1830, est partie coloniser l'Afrique du Nord, c'était pour stopper l'esclavage des Européens. Bon, alors tout ça, ce sont des choses qu'il faut aussi comprendre. Et il est, malgré les fausses théologies sur Israël, sur la théologie de la remplacement, une des choses les plus fortes qui va se passer dans ce 21e siècle, c'est que Dieu donne au mouvement prophétique en Europe de se repositionner par rapport à Israël et se repositionner par rapport à l'héritage d'Israël, se repositionner aussi par rapport à l'Alliance. C'est pour ça que je voudrais que nous rentrions dans une étude qui sera peut-être un peu technique. J'en suis désolé, mais je crois que c'est extrêmement important de comprendre cela, parce que c'est au travers, c'est lié à quoi ? Qu'est-ce que Dieu veut faire à la fin des temps ? C'est lié à ça. Mais pour parler d'Israël, la maison de Juda, des 10 tribus perdues, et bien, c'est pour ça que, comme disait Pascal, nous avons un petit-fils qui s'appelle Éphraïm, et bien entendu, nous allons beaucoup parler d'Éphraïm. Amen. Comprenez ce qui est en train de se passer. À partir de 2016, il va y avoir une pression très très forte. Et attendons-nous en 2017 un très grand événement qui va se passer à Jérusalem. Chaque fois qu'il y a un jubilé, il y a un très grand événement. 50 ans plus tôt, c'était quoi ? La libération de quoi ? De Jérusalem-Est. Pour la première fois, Pascal l'a dit tout à l'heure, c'était le 7 juin 67, Jérusalem a été réunifiée. Mettez 50 ans plus tôt, nous étions au camp. Nous étions au pacte de Balfour en 1917. Que s'est-il passé ? L'Angleterre s'engage à donner aux Juifs 33% de la Palestine et aux Arabes 66% de la Palestine. Ça a été scellé au traité de San Remo, par la Société des Nations, l'équivalent de l'ONU. C'était en 1920, le traité de San Remo. C'est extrêmement important, parce que c'est une déclaration juridique que l'ONU aujourd'hui ne peut pas remettre en question. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce qui est à l'ouest du Jourdain appartient légitimement au peuple juif. C'est-à-dire 33% de la Palestine, y compris Gaza. Et les 66% de la Palestine appartient aux Arabes. Les 66% représentent aujourd'hui la Jordanie. Quand le premier roi de Jordanie a été couronné, il s'est engagé à faire de son pays selon le traité de San Remo. Et c'est pour ça que la Jordanie devrait s'appeler la Palestine. Et ça, c'est important de savoir ça, parce que regardez ce que Mahmoud Abbas a fait. Il a mis en procès Netanyahou et le gouvernement israélien, il y a à peu près 3 ans, devant la Haute Cour de justice de Versailles, pour se plaindre concernant les abus du gouvernement israélien au sujet, dans les territoires occupés, de la construction illégale des... Comment ça s'appelle ? Des immeubles, des... Hein ? Bon. Quelle a été la déclaration de la Haute Cour de justice de Versailles le 15 janvier 2016 ? Bien sûr, les médias n'en ont absolument pas parlé, et on sait pourquoi. Quelle a été la déclaration ? La déclaration de justice, c'est qu'on ne peut pas abroger une loi qui a été déclarée par l'ONU, donc par la Société des Nations, par le traité de San Remo en 1920. C'est-à-dire que le gouvernement d'Israël a toute autorité sur Gaza et sur tout territoire à l'ouest du Jourdain. Et que les frontières de 1948 sont une trahison du gouvernement de Churchill qui n'a pas respecté le traité de San Remo. Et vous voyez, ce sont des choses qu'il faut savoir. Parce que si on ne connaît pas l'histoire, on pervertit les choses. Parce que même les journalistes, je le soupçonne, de ne pas connaître leur histoire. Et c'est traité. Un autre exemple, vous écoutez les nouvelles. Là encore, il y a eu un grand silence. Quelle est la plus grande réserve de pétrole du monde ? Tout le monde le sait, c'est l'Arabie Saoudite, avec 290 milliards de mètres cubes. C'est l'Arabie Saoudite qui a la plus grande réserve de pétrole dans son territoire. Quelle est la deuxième nation qui a la plus grande réserve de pétrole du monde ? Vous le savez. Bravo. Vous êtes fort bien documenté. Avec 260 ou 270 milliards de mètres cubes. Exactement. Pourquoi on n'en parle pas ? Parce que l'OPEP a menacé les grandes compagnies pétrolières, Shell, la BP, Total et compagnie, en interdisant de faire la moindre extraction en Israël. Ok ? Vous savez, on est dans un monde où les médias n'ont plus la liberté de s'exprimer sur les sujets, disons, pointus. Et je rends hommage à ce journaliste extrêmement courageux qui a écrit un livre absolument remarquable. Rappelle-moi le nom de ce journaliste. Mais si ce journaliste qui a été mis à la porte des grands journaux, enfin... Guy Millière, oui. Et il a écrit un livre remarquable que vous pouvez trouver dans quoi ? Sur Amazon. Pouvez-vous me donner le nom de son livre ? Remarquable. Le dernier livre de Guy Millière. Désolé, j'ai oublié le dernier livre. Excellent. Vous voyez, parfois il y a des hommes qui ne sont pas prophétiques, qui ne sont pas chrétiens, mais ils sont plus courageux que les chrétiens et ils sont finalement plus prophétiques. Et merci Seigneur. Merci Seigneur pour le courage de Guy Millière qui a été menacé de mort, etc., etc. Et vous voyez, c'est ça. Si aujourd'hui, au lieu d'être obsédé, certaines églises, certains ministères sont obsédés par la peur de judaïser. Mais au lieu de cela, pouvons-nous véritablement comprendre aujourd'hui ce que veut dire l'Alliance ? Et c'est une chose qui va être extrêmement importante. C'est une chose qui va être extrêmement importante. Parce qu'aujourd'hui, et bientôt, je vous rappelle les photos, tout le voyage du pape à New York et à Washington en septembre 2015. No comment. Vous êtes intelligent, vous vous renseignez sur ce qui se passe. Je vous renvoie à tout ce qui a été dit, même dans les journaux français qui n'ont pas tout raconté. Il y a quelque chose que le pape a dit, que ça y est, l'unité de l'Église allait être en cours. Or, comment voulez-vous que l'unité de l'Église puisse se construire si elle renie sa propre racine ? C'est toujours le même problème. Voyez-vous, comment peut-on, dans les milieux qui se disent charismatiques, qui se disent prophétiques, qui se disent ouverts à l'esprit prophétique, comment aujourd'hui peut-on parler de Pâques le jour de la résurrection de Jésus. Comment ose-t-on faire cela? Relisez Lévitique 23. C'est le jour de la fête des prémices que Jésus est ressuscité. Pourquoi tant d'églises qui se disent réveillées se mettent sous les lois de la réforme de l'empereur Constantin qui était antisémite? Comment peut-on continuer à fêter Noël avec un arbre de Noël? Expliquez-moi ça. Si la parole de Dieu ne donne pas la naissance du Christ, n'allons pas au-delà de la parole. C'est charmant, le Papa Noël. C'est une principauté de la forêt dans les peuples vikings. Ok, ça c'est pour vous débrouiller. Hein. Bon, c'est adorable. Hein. L'arbre de Noël, c'est magnifique. Mais ce n'est pas fondé sur la parole. Respectons la parole de Dieu et ne mélangeons pas la fête de Noël, qui est une fête profondément païenne dans sa source, avec la fête de Hanouka, qui est la fête de la lumière et que Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Voyez. Comment peut-on aujourd'hui se mettre sous le joug des fêtes soi-disant chrétiennes, qui sont des fêtes antisémites, de l'an 330? Alors que dans Lévitique 23, on est appelé à s'aligner dans la signification christique des fêtes de l'Éternel. Voyez-vous, il y a 30 ans, c'était acceptable. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Vous savez pourquoi, mes amis, ce n'est pas acceptable? Parce que cela fait 30 ans que les prophètes en parlent. Je vous en prie, repentez-vous de votre esprit constantinien et augustinien et restez attachés à la parole de Dieu, tout simplement. Quand vous dites « je refuse les fêtes de Lévitique 23 et je préfère le calendrier grégorien des fêtes chrétiennes », c'est comme si vous disiez « je refuse l'Ancien Testament », qu'on devrait d'ailleurs appeler le premier testament, la première alliance. Mais on ne peut pas refuser, la parole de Dieu est entière. Elle est une. Le Nouveau Testament est, je dirais, la confirmation de l'Ancien, la révélation de l'Ancien, de ce que l'accomplissement de l'Ancien. Gloire à Dieu. Et c'est pour ça que le temps que nous vivons aujourd'hui, nous allons vers une réforme, mais la plus profonde réforme, parce qu'on parle de beaucoup de réformes. On dit que la réforme de l'Église, c'est avec les églises de maison. Je suis tout à fait d'accord. Mais soit dit en passant, les églises de maison, elles sont réapparues parce que l'empereur Constantin, en l'an 330, en interdisant les chrétiens de respecter les fêtes de Lévitique 23, il leur a aussi interdit d'aller dans des synagogues, et il leur a aussi interdit les églises de maison. Ok ? Elle leur a interdit la fête des tabernacles, qui a une signification christique essentielle. Elle leur a interdit la fête des trompettes, ok? Mais c'est important de comprendre cela, mes amis. Parce que si nous ne comprenons pas les sept étapes qui amènent à la révélation du royaume de Dieu, qui est-ce que nous attendons? Nous nous préparons pour les noces de l'agneau ou nous voulons rester de bons chrétiens? C'est le message que je suis en train d'apporter en ce moment. Est-ce que, c'est en 2016, c'est ça, est-ce que tu préfères rester un bon chrétien sauvé ou un vrai disciple de Christ qui est appelé à lever la moisson qui vient? C'est la question qui nous est posée. Amen. Alors, revenons à l'Alliance. Nous ne pouvons comprendre la place de l'Église, la place d'Israël, le plan de Dieu à partir du concept de l'Alliance. Je voudrais essayer d'aller le plus vite possible pour arriver à l'essentiel. Alors pardonnez-moi si je suis un peu maladroit et je flanque mon nez, mes yeux dans mes textes. Il faut comprendre, pour résumer Genèse 15, l'alliance que Dieu va faire à Abraham, il faut comprendre deux choses que le Seigneur est en train de dire. Que l'alliance divine consiste en deux éléments essentiels que Dieu est en train de dire à Abraham. La première chose, c'est l'héritage perpétuel de la terre d'Israël. L'héritage de la terre d'Israël. Et la deuxième chose, c'est la formation d'une postérité nombreuse à Abraham. Hein? Alors, de quelle nature va être cette postérité? Nous voyons dans Genèse 13, 16 déjà, « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. » En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Waouh, où est Thierry? Tu vas vite nous expliquer ce que ça veut dire. Tu n'as rien à dire, Thierry, à ce sujet? Thierry, j'aimerais que tu t'approches de la lumière. J'ai besoin de te voir dans la lumière. Ok.
Par rapport à l'alliance, alors l'alliance en hébreu c'est brit, et brit c'est un code, donc on a le bet ça veut dire la maison, le resh c'est la tête, le yud c'est la valeur la plus haute du tétragramme, c'est la première lettre de Dieu, et le tav c'est le tampon de Dieu. C'est-à-dire dans l'alliance, il faut pour être dans l'alliance, il faut qu'on soit dans la maison de Dieu. Amen. Il faut que la tête soit dans la pensée de Dieu. C'est pour ça que Christ il nous dit demeurez en moi. Et quand nous demeurons en lui, il y a le yud. Donc c'est-à-dire que Dieu à travers cette lettre, il va te donner son essence et tout ce que tu vas faire. Yeshua, il faisait seulement ce que le Père lui demandait de faire et il va mettre le tampon sur les œuvres qu'il a préparées d'avance. C'est ça, la dimension. Enfin, c'est une des choses, la dimension de la vraie alliance. Noé a reçu 7 niveaux de dimension. Et comme le frère, il a dit, et Abraham, Abraham c'est un code, mais je ne veux pas maintenant, parce qu'autrement on n'en finit plus, mais la dimension d'Abraham, si tu es un fils d'Adam, et je vais terminer avec ça, si tu es un fils d'Adam, la première lettre de Adam, c'est Abraham, le père de la multitude, donc vous êtes engendré pour... Et s'il y a des évangélistes ici, Dieu te dit ce soir, tu es engendré pour une multitude. Le Dalet, c'est la porte, c'est aussi David, la restauration du tabernacle de David. Et on termine avec le même qui est le Mashiach, donc la porte qui ouvre au Messie. Donc un vrai Adam, c'est cette dimension-là. Et il y a 3 types de Adam. Il y a le premier Adam qui était dans le jardin d'Éden. Et s'il y a des frères d'origine musulmane, pardonnez-moi, mais je dois vous le dire, parce que Dieu me dit de vous le dire. Il y a le Péré Adam, c'est la parole de Dieu qui dit, c'est le fruit sauvage, ce n'est pas l'âne sauvage. C'est Dieu va donner le qualificatif de sauvage avant qu'il soit un homme. Et le dernier Adam, donc c'est le Messie, mais nous sommes appelés à être à cette ressemblance, ce nouvel Adam.
Merci, merci beaucoup Thierry. Et c'est important de comprendre cela. Alors Dieu promet à Abraham dans Genèse 13 et 17 de le multiplier énormément et plusieurs nations sortiront de lui et ses descendants posséderont la terre d'Israël. Alors, comment cette postérité, elle va se former ? On le voit dans la Chronique 16. Dieu fait la même alliance avec les promesses à Isaac et puis à Jacob. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham, le serment qu'il a fait à Isaac, il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant « Je te donnerai le pays de Canaan comme l'héritage qui vous est échu. » 1 Chronique 16:16-18. C'est par la foi qu'Abraham va s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, il habitant sous des tentes, et qu'ainsi Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Hébreux 11:9, n'est-ce pas? Alors, nous voyons que l'alliance d'Abraham a été transmise à Isaac et Jacob, et que cette alliance est toujours composé de ces deux éléments, une grande postérité composée de plusieurs nations et la possession de la terre d'Israël pour héritage. Hein ? Mais il y a des conditions à cette alliance. Hein ? C'est la circoncision, je ne vais pas développer ça. Il y eut une famine dans le pays. Je vais sauter ça parce que c'est trop long. Nous voyons dans Genèse 17, 7 et toujours Genèse 26 que Dieu prend trois engagements dans cette alliance. Et quels sont les trois engagements ? Eh bien, on vient de le dire, une grande postérité à Abraham, Isaac et Jacob. Cette postérité sera composée de multiples nations. Et troisièmement, héritage perpétuel de la terre d'Israël. C'est le mot perpétuel qui est héritage, mais perpétuel. C'est-à-dire, il ne sera jamais abrogé. Abraham et sa postérité doivent également respecter trois engagements. Hein ? Les trois engagements que Abraham et sa postérité doivent respecter, c'est l'Éternel doit être leur seul Dieu. Deuxièmement, on l'a vu tout à l'heure, garder la circoncision. Et troisièmement, observer les commandements divins. Donc si on voit bien, dans la pensée biblique, l'alliance divine, c'est un contrat dans lequel la postérité d'Abraham reçoit des droits sous forme de promesses divines. Écoutez bien ça. C'est un contrat dans lequel la postérité d'Abraham reçoit des droits sous la forme de promesses divines, mais aussi des engagements à respecter. Qu'arrive-t-il si la postérité ne respecte pas ses engagements ? On le voit dans plusieurs passages. Deutéronome 1,8, nous voyons que les enfants d'Israël ont l'obligation de prendre possession et d'occuper la terre d'Israël. Ils ont l'obligation. Ils ne vont pas le faire entièrement. Vous voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez, prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Mais cette occupation, elle est conditionnée à l'observation de la Torah. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui ont été avant vous et le pays en a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui étaient avant lui. C'est curieux, hein ? Qui me disait, c'était Thierry qui nous disait ce matin que la terre, c'est comme si elle avait une mémoire. Ça m'a beaucoup frappé. Et c'est tout à fait cela. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables des nations, Lévitique 18. Maintenant, il est important de comprendre quelque chose. Donc, en conclusion, d'abord, nous voyons que si les descendants d'Abraham échouent à garder leur part du contrat, qui consiste à respecter les commandements, ils perdent le droit de vivre sur la terre. Waouh ! La terre promise par l'Alliance. L'Alliance divine est donc conditionnée au respect des engagements. Oh là là, c'est fort parce que quand on pense au mariage, par exemple. Comment cette postérité composée de plusieurs nations, comment cette postérité va-t-elle se former ? Voyons cela avec la maison d'Israël. Si on lit 1 Chronique 1, 5, Joseph et ses fils sont devenus héritiers du droit d'aînesse, donc de la bénédiction d'Abraham, ça on le savait. Deutéronome 21 sur le droit d'aînesse. Ruben l'a perdu à cause de sa mauvaise conduite en couchant avec une des femmes de son père. Bon, je saute ça parce qu'on n'a pas le temps. Ce qui est intéressant, c'est que dans Genèse 48, verset 1 à 22, Jacob, qu'on appelle Israël, va transmettre la bénédiction d'Abraham, c'est-à-dire multiplication de la postérité et terre d'Israël, Jacob va le transmettre au fils de Joseph. C'est-à-dire, qui sont les fils de Joseph ? Éphraïm et Manassé. Ok, je vois que vous connaissez par cœur. On le voit dans Genèse 41, 50 et suivant. Jacob, bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mon père, Abraham, Isaac, que le Dieu qui m'a conduit jusqu'à ce que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham, Isaac et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Hein? Et son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils. Hein, lui aussi, Manassé, deviendra un peuple, lui aussi aussi grand. Mais son frère cadet, Éphraïm, sera plus grand que Manassé. Et sa postérité deviendra la plénitude des nations. » Waouh ! Il faut comprendre ceci. Ça, je viens de vous lire Genèse 48, 15, 16 et 19. Jacob adopte les fils de Joseph comme ses propres fils. Il choisit Éphraïm, c'est-à-dire le cadet, pour être son premier-né à la place de Ruben. Ok ? Au verset 16, Jacob les bénit, les deux fils de Joseph, pour qu'ils multiplient en abondance. Le mot « multiplier » traduit le mot « dagar », qui signifie « poisson » en hébreu. Hein ? La multiplication, c'est ce qu'on dirait en Marseille, la poissonnade. Hein ? Et « poisson », comme le traduit littéralement « chouraki », « poissonner ». Éphraïm signifie « le doublement fécond » et Manassé « l'oublieux ». Nous allons voir pourquoi plus tard. Autrement dit, Jacob, au verset 19, prophétise qu'Éphraïm deviendra Melo Hagoïm, qui est littéralement la plénitude des nations. Attends, quand je parle d'Éphraïm, est-ce que vous me suivez ? C'est la tribu principale des 10 tribus. On va revenir là-dessus. Joseph, si je comprends bien, il hérite lui-même de l'alliance. Et c'est son fils Éphraïm, son fils cadet, qui en hérite après lui. Éphraïm, lui, reçoit deux bénédictions. Celle d'avoir une nombreuse descendance, ce qui a été dit avec Abraham, Isaac, et celle d'avoir des descendants dans toutes les nations. Waouh ! Dans toutes les nations. C'est donc à travers Éphraïm et sa descendance que Dieu va remplir deux des engagements de l'Alliance, il y en a trois. Dieu va remplir deux, une postérité innombrable à Abraham et postérité provenant de toutes les nations. Mais comment Dieu va-t-il s'y prendre pour donner à Abraham une descendance composée de toutes les nations à travers Éphraïm ? Autrement dit, comment Dieu va s'y prendre pour accomplir sa promesse à travers Éphraïm ? Et il faut comprendre qu'à la mort de Salomon, il y a un Éphraïmite qui va se lever et qui va rassembler les 10 tribus du Nord. Et c'est à partir de ce moment-là que l'on va appeler le royaume du Nord Éphraïm, ou plutôt la maison d'Éphraïm, ou la maison d'Israël, ou encore la maison de Jacob. Ok ? Et on va appeler le royaume du Sud... C'est le roi Roboam, fils de Salomon, qui va rassembler Juda, ben oui, c'est la tribu de Juda, autour de Jérusalem, Benjamin, qui était une très petite tribu, qui vivait à côté de Juda, et puis les Lévites, qui vont quitter les villes lévitiques du royaume du Nord pour s'installer à Jérusalem. Donc on va se trouver, à partir, on le voit dans 1 roi 11 et 1 roi 12, hein, on voit que les 12 tribus vont se séparer, l'une, le royaume du Nord, avec comme tribu principale Éphraïm, qui représente à peu près 60% de la population des 10 tribus, et le royaume du Sud autour de Juda, et des Lévites et de Benjamin. Et alors, c'est intéressant parce que Roboam, fils de Salomon, reste roi de Juda, mais il ne va plus régner sur les 12 tribus comme son père. C'est pour ça que la maison, on va appeler à ce moment-là, les 10 tribus, la maison d'Israël, qui va être aussi surnommée Samarie parce que c'est la capitale, comme la maison de Juda va être surnommée Jérusalem. Ok ? Ça, c'est important de comprendre cela. Parce que, aussitôt, Jéroboam, le royaume du Nord, va immédiatement installer deux temples païens avec des veaux d'or. Ok ? L'un à Dan, et l'autre, où est le deuxième temple ? Hein ? Je crois que c'est à... Oui. Non, c'est à... Il place ça, le deuxième veau. Non, c'est à Bethel. Mais l'un à Bethel et l'autre à Dan. Pour, en quelque sorte, empêcher les dix tribus de se tourner vers Jérusalem et d'adorer Dieu à Jérusalem. Il va créer deux temples pour remplacer le temple de Jérusalem. Il fit des veaux d'or, créa des nouvelles fêtes en utilisant un nouveau calendrier. Ah ah ! Qui a créé un nouveau calendrier plus tard pour se séparer d'Israël ? Exactement la même chose. C'est l'empereur Constantin qui va créer un nouveau calendrier. Et les deux royaumes, bien avant Constantin, le royaume du Nord va être en guerre contre le royaume du Sud. Comme l'Église va être en guerre contre Israël. Vous voyez ? On installe un nouveau calendrier, on installe des nouvelles fêtes. Hein ? Voilà pourquoi je fais venir le malheur sur la maison de Jéroboam. Alors là, dans 1 Roi 14 et 15, n'ayant pas gardé les engagements de l'Alliance, en inventant un nouveau culte, Jéroboam va perdre la terre d'Israël. Il se voit promettre par Dieu que sa maison sera exterminée, que la maison d'Israël sera emmenée captive loin de la terre d'Israël. Hein ? Et on le voit dans 1 Roi 14, « Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi, tu es allé te faire d'autres dieux et des images de fonte pour m'irriter, tu m'as rejeté derrière ton dos, c'est pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam, j'exterminerai quiconque appartient à Jéroboam, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël, je balayerai la maison de Jéroboam comme on balaye les ordures jusqu'à ce qu'elle ait disparu. L'Éternel frappera Israël et il en sera de lui comme du roseau qui est agité dans les eaux et il arrachera Israël de ce bon pays qu'il avait donné à leur père et les dispersera de l'autre côté du fleuve parce qu'ils se sont fait des idoles irritant l'Éternel. Il livra Israël à cause des péchés que Jéroboam a commis et qu'il a fait commettre à Israël. 1 Roi 14, versets 7 et 15. 2 Chroniques 11 des Lévites. Alors, à ce moment-là, je ne vais pas vous redire ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure. Les Lévites vont évidemment fuir les dix tribus. Et cet exil, évidemment, les dix tribus vont disparaître. Ils vont disparaître en moins 722, car l'empereur d'Assyrie, le roi d'Assyrie, Tiglath-Pileser, va envahir et va déporter toutes les dix tribus. Et c'est ainsi que les dix tribus vont se mélanger dans les nations. On se trouve vers l'an moins 722 avant Jésus-Christ. Juda n'est pas conquise par la Syrie et va rester encore en terre d'Israël. On le voit dans 2 Rois 17. Aussi l'Éternel s'est fortement irrité contre Israël et les a-t-il éloignés de sa face. Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Hein nous connaissons l'infidélité de Juda. Juda va être envahi. Vers moins, je ne sais pas exactement, moins 500, 120 ans plus tard, en moins 605 exactement, Juda est à son tour emmené captif par les Babyloniens. Mais sa captivité ne va durer que 70 ans. Et ça, à partir de ce moment-là, à cause de son péché d'idolâtrie du roi Salomon et surtout de ses épouses, son royaume est divisé. La maison d'Israël regroupe les dix tribus. Maison du Juda regroupe les deux tribus, Juda et Benjamin. Quels sont les prophètes qui vont parler de ça ? Il y a Amos qui va beaucoup en parler. Hein ? Et il y a le prophète Michée qui en parle. Il y a le prophète Jérémie qui va en parler. Et nous voyons quand même dans Jérémie 3... Dieu dit ceci, « Quoique j'eusse rébutié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Juda, sa sœur, n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. » Dieu va donc répudier la maison d'Israël. Dieu est un divorcé. Israël est déjà en Assyrie quand Jérémie écrit. Il prophétise surtout pour Juda que Juda va aussi connaître l'exil. Alors on voit le prophète Ézéchiel prophétise dans tout le chapitre 23, l'histoire de Ohola et de Oholiba, Samarie et Juda en exil. Alors, celui qui va plus parler, le plus parler des deux royaumes, c'est le prophète Osée. Alors, le prophète Osée est d'une importance très importante. Il vit entre moins 750 et moins 715. Il est le prophète qui a plus parlé des deux royaumes. Osée prophétise l'exil de la maison d'Israël, mais aussi, Osée prophétise aussi le retour futur de la maison d'Israël. Aha! Autrement dit, ce que Osée prophétise ne s'est pas encore accompli. Car aujourd'hui, la maison de Juda se fait appeler Israël. Il y a aussi, peut-être que l'Église s'est fait appeler le nouvel Israël, mais aujourd'hui, la maison de Juda se fait appeler Israël. Et ce n'est pas juste. Ah. Alors, en Osée 1, 4 à 9, dit que Dieu punira Israël et de l'exil. On l'a encore, ça c'est l'écho. Il lui enlèvera sa miséricorde, ça s'appelle Lo Ruhama. Il ne la reconnaît plus comme son peuple, Lo Ami. Ah, il faudrait relire tout Osée 1 à 6 pour comprendre ça. L'Éternel lui dit, appelle-le du nom de Jisraël. Car encore un peu de temps et je châtirai la maison de Jéhu par le sang versé à Jisraël. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. Hein? En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jisraël. Elle conçut de nouveau et enfanta l'épouse de Osée, une fille, et l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Lo Ruhama, car je n'aurai plus pitié, c'est plus pitié que veut dire, de la maison d'Israël. Hein? Mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Je les sauverai par l'Éternel. Elle sevra Lo Ruhama, puis elle conçut et enfanta un fils. Et l'Éternel dit, donne-lui le nom de Lo Ami, car vous n'êtes plus mon peuple. Au verset 7, Dieu dit qu'il aura encore pitié de Juda. Hein? Quoique, Jérémie 3, 8, quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, Dieu dit, j'ai un avenir pour les 10 tribus. Osée 2 nous apprend que la punition d'Israël, c'est d'être privé de la Torah. Waouh! Hein? Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles nulles, ses sabbats, autrement dit, Dieu dit que non seulement Israël perd sa terre, mais elle perd la Torah. Elle perd même l'Alliance. Hein? Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans séphérim. Longtemps. Si Dieu dit elle va rester longtemps, ça veut dire qu'il va y avoir une fin. Il va y avoir un retour des 10 tribus. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que si j'apporte cet enseignement, c'est que par la révélation, Dieu m'a dit l'année dernière, je mets un signe sur ton message. Et en fait, ce signe, c'est qu'un jour, ma fille et mon gendre sont venus me dire et m'ont dit, mais on a reçu du Seigneur d'appeler notre quatrième enfant, Éphraïm. Et ils ne savaient pas que pendant 6 mois, Dieu était en train de me parler de Éphraïm, c'est-à-dire des 10 tribus. Parce que Éphraïm, la maison d'Éphraïm, représente les 10 tribus. Croyez-moi que j'ai bondi de joie. Alors là, j'étais suffoqué. Là, j'ai dit, ok Seigneur, je te remercie pour le signe. J'ai compris. Hein? Et c'est intéressant parce que le Seigneur avait précisé aussi que ce signe viendrait avec une fête de l'Éternel. Et mon petit-fils est né le deuxième jour de la Pessa. Gloire à Dieu. Passage. Gloire à Dieu. Et ça, et c'est pas ce dimanche, c'est l'autre dimanche. Ce que je vous dis, c'est tout récent. Hein? Mon peuple est détruit. Je rejetterai, ça je l'ai dit, je ne peux pas vous lire tout. Alors, Osée 7, 8, nous apprend qu'Éphraïm se mêlera aux autres peuples. C'est l'assimilation. L'assimilation, elle est totale. Éphraïm, rappelez-vous ce que veut dire Éphraïm. Hein? Il sera doublement fécond. Il est la multiplication des nations. Hein? Et en hébreu, ça donne, il est la poissonnade des nations. Waouh! C'est fort ça. C'est fort. Et regardez, Osée 7-8 nous apprend qu'Éphraïm se mêlera aux autres. Ok, Éphraïm se mêle avec les peuples. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Hein? Mais Juda ne restera que 70 ans, on l'a dit. Résumé des punitions de la maison d'Israël. Je ne peux pas le développer parce que je n'ai pas le temps. Première chose, c'est l'exil. Le divorce avec Dieu. Troisièmement, la privation de la Torah. Quatrièmement, privé de sacrifices du temple et du sacerdoce. Cinquièmement, perte de l'identité hébraïque par assimilation avec les nations. Et c'est pour ça, d'où le nom de son frère qui est Manassé, celui qui a oublié. Oublieux. Manassé, qui est l'aîné, va passer en second. Mais en fait, dans l'histoire, c'est Manassé qui reste premier. Éphraïm qui va arriver à la fin de l'histoire des nations. C'est-à-dire que, en fait, Dieu fait en sorte que Éphraïm, quelque part, la tribu d'Éphraïm, c'est-à-dire qui représente les 10 tribus, je ne vous fais pas la liste des 10 tribus, n'est-ce pas ? Hein ? Dan, Ruben, Dan, Asher, Zabulon, etc. Et Éphraïm, en quelque sorte, laisse la place à celui qui oublie. Il devient Manassé, il devient l'oublieux. Et pourtant, à la fin des temps, les 10 tribus vont réapparaître. Juda ne reste... je ne vais pas vous relire ça. Mais même si les prophètes ne donnent aucune date limite, ils annoncent tout de même le retour futur d'Israël et de sa réunion avec Juda. On le voit dans Michée 2, Amos 9, Ésaïe 14, Osée 2, Osée 11, Osée 14, Zacharie 8, Zacharie 10, Jérémie 50. Donc ça c'est clair. Ça c'est clair, on voit qu'à la fin des temps, il y aura le retour des 10 tribus. Il y a assez de références. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront des villes dévastées et ils y habiteront. Je fortifierai la maison de Juda et je délivrerai la maison de Joseph. C'est-à-dire que, aussi, les prophètes annoncent qu'il y aura un autre exil pour Juda, mais que Juda reviendra d'abord, avant les 10 tribus. Hein? À travers ces différents passages, nous pouvons voir qu'Éphraïm sera rétabli dans l'Alliance en retrouvant le droit d'habiter sur la terre d'Israël. Zacharie 8, 23 prophétise clairement le retour des 10 tribus d'Israël. Hein? 10 hommes parlant toutes les langues des nations, Zacharie 8, et d'exil, vont s'unir à Juda, le juif qui a conservé le culte divin. Ainsi parle, Zacharie 8, 23, ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous car nous avons appris que Dieu est avec vous. C'est fou, hein? Les 10 hommes font allusion aux 10 tribus. Ce retour et cette réunion se feront par le Messie. C'est le Messie. C'est par la venue, c'est-à-dire par le retour du Messie. En quelque sorte, les 10 tribus sont en quelque sorte, vont arriver avec le Messie. On le voit dans Michée 5, 1 à 4, Osée 3, verset 5. Ésaïe 11, verset 1 à 16, Ésaïe 49, 1 à 6. Je veux dire, ce que je vous dis, je donne les références, parce que ce n'est pas à un endroit qu'on voit ça, c'est à plein d'endroits. Jérémie 30, 1 à 11, plus Jérémie 33, 14 à 18, Ézéchiel 34. Après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel leur Dieu, et David, leur roi, et tressailliront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. La Mishnah, elle dit ceci. Hein? La Mishnah, Thierry, c'est quoi la Mishnah ? C'est la tradition, c'est-à-dire le commentaire des textes saints. Ouais. Ah oui, s'il y a 10 hommes, il ne peut pas y avoir de culte. Autrement dit, si les tribus ne sont pas rassemblées, il n'y a pas de vraie adoration. Très fort. Merci beaucoup. Les 10 tribus ne sont pas destinées à revenir. La Mishnah dit, elles ne sont pas destinées à revenir, car il est dit, il les envoya dans un autre pays jusqu'à ce jour. Comme les jours passent et ne reviennent pas, ils sont allés par leur chemin et ne reviendront pas. Ce sont les mots de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva est un des très grands rabbis. Rabbi Eliezer dit, tout comme ce jour est sombre et ensuite la lumière croît, ainsi les 10 tribus par qui il fait sombre maintenant, à l'avenir, la lumière est destinée à croître pour eux. Donc lui, il dit, ils seront révélés. Alors, on va pas lire cela, nous n'en avons pas le temps. Mais si on sait que les prophètes annoncent le retour futur de la maison d'Israël, sans donner de délai, ce retour se fera par le Messie et par la repentance des Israélites. Alors les deux maisons, celle de Juda et celle d'Israël, seront réunies à nouveau. Les Juifs continuent aujourd'hui encore à chercher les descendants des 10 tribus partout dans le monde. Et vous avez des conférences remarquables de Jean-Marc Taubois à ce sujet. Je t'avais planté comme une vigne, alors on le voit dans Jérémie 2, 21. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère hein? Nokri en hébreu. En hébreu, Nokri signifie un étranger non israélite. Comment es-tu devenu une vigne non israélite? C'est jusque-là, il dit. Alors, qu'est-ce que dit la Nouvelle Alliance? Qu'est-ce que dit la Nouvelle Alliance? Que dit le Nouveau Testament? Dans la Nouvelle Alliance, la terre d'Israël n'est peuplée que des descendants de la tribu de Juda, comme d'aujourd'hui. Benjamin et Lévi, quelques membres d'autres tribus. Asher, entre autres, dit. Luc dit, dans Luc 2, 36, dans Acte 1, 6 à 7, les disciples qui ont reconnu Yeshua comme Messie s'attendent à ce que Yeshua, Jésus, rétablisse à leur époque le royaume d'Israël. Ah ah! Donc il faut retrouver les 10 tribus. C'est-à-dire qu'il rassemblera les tribus dispersées conformément aux prophéties. Mais Jésus leur répond que le temps n'est pas encore venu pour ça. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Maître, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Jésus leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Acte 1, 6. Voyons que les apôtres attendent avec impatience la réunion prophétisée des deux maisons. Ils attendent. Puisque la réunion des deux maisons se fait par le Messie, il est normal que les apôtres posent cette question à celui qu'ils savent être le Messie. Car si Jésus n'a rien fait pour rassembler les deux maisons, alors il ne peut pas être le Messie. Si Jésus ne rassemble pas les deux maisons, il n'est pas le Messie. Annoncé par les prophètes. Jésus nous dit n'être venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Ça, c'est extraordinaire. Il dit n'être venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais lui répond... Excusez-moi. Quand les disciples lui posent la question, quand les pharisiens lui posent la question, es-tu le Messie? Et Jésus répond, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus envoie ses disciples vers la maison d'Israël, non pas vers les gentils. Jésus envoya ses 12 et leur donna cet ordre, disant, ne vous en allez pas sur le chemin des nations. Et n'entrez pas dans aucune ville de Samaritain, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu 10, 5, 6. Jésus dit clairement que sa mission est dirigée vers les brebis, c'est-à-dire les tribus perdues de la maison d'Israël, c'est-à-dire d'Éphraïm. Et Jésus dit également qu'il a d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les amène, elles aussi, dans Jean 10. Et elles écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau, un seul berger. Si nous sommes dans les temps de la fin, Jésus rassemblera les 10 tribus avec Judas. Ces brebis se rassembleront sous son autorité pour former un seul peuple, Michée 2, Jérémie 23, Jérémie 50. De plus, Jésus nous dit être le berger de ces brebis comme l'Éternel. Dans le contexte des prophéties, ces deux types de brebis sont Éphraïm et Judas, et non des gentils. En effet, jamais le mot brebis et bergerie ne sont employés dans la Bible pour parler des gentils. mais toujours des Israélites. Jésus dit qu'il va faire de ses disciples des pêcheurs d'hommes. Et il leur dit, venez après moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Ceci est une allusion à Jérémie 16, où les pêcheurs d'hommes sont envoyés pêcher les enfants de la maison d'Israël dans leur pays d'exil. Les Manassés sont oublieux, ils ont oublié leur terre. Mais pas Dieu, il sait. Ceux qui viennent à lui ont tous comme origine ceux de la maison d'Éphraïm. Mais on dira l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du septentrion, de tous les pays où ils avaient chassé. Je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Voici, j'envoie une multitude de pêcheurs, dit l'Éternel, et les pêcheront. Après cela, une multitude de chasseurs, et les chasseront de toutes les montagnes. L'expression pêcheur d'homme est une allusion évidente à la bénédiction d'Éphraïm. Hein? Et où il est dit qu'Éphraïm multipliera. En hébreu, c'est dagar, qui littéralement signifie « Éphraïm poissonnera », comme le traduit Chouraki. Yeshua, Jésus dit clairement que les apôtres sont les pêcheurs d'hommes de la prophétie de Jérémie, que leur mission est de ramener les brebis perdues de la maison d'Israël, dont les descendants sont dans toutes les nations de la terre. Alors, la parabole du fils prodigue, alors là, elle est spectaculaire. Dans Luc 15, qui est le fils aîné? C'est bien sûr, c'est Judas. Qui est le fils prodigue? C'est bien sûr, c'est Éphraïm. Il dit encore, un homme avait deux fils, le plus jeune dit à son père, vous connaissez l'histoire. Dans cette parabole, l'homme représente Dieu. L'un, c'est Éphraïm. Le plus jeune, l'aîné, c'est Judas. Hein? Car voici ce que dit Amos, Jéroboam mourra par l'épée et Israël sera amené captif loin de mon pays. Et on voit dans la parabole du fils prodigue qu'il est question d'une famine. Mais regardez ce qui est dit, Jéroboam mourra par l'épée et Israël sera amené loin de son pays, comme le fils prodigue. Cette famine fait référence à la fin de quoi? À la fin de la Torah. À la fin, F-A-I-M, la fin de la Torah. C'est-à-dire qu'Éphraïm a soif et a faim de la Torah. Et Éphraïm va souffrir après en avoir été privé par Dieu en punition de ses fautes. Amos 8, voici les jours viennent, dit le Seigneur, les années où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les pêcheurs d'hommes, en fait, ce sont ceux qui se tournent, la multitude des nations qui est en train de venir à Yeshua. Qui sont-ils, sinon de la descendance d'Éphraïm? Qui sont-ils sinon de la descendance d'Éphraïm? Hein? Alors, sont-ils tous uniquement de la descendance des 10 tribus? Je n'en sais rien. Je ne peux pas vous répondre. Mais je peux vous dire que, en fait, quand bien même ils ne seraient pas des 10 tribus, ça n'a aucune importance. Ils se joignent aux 10 tribus. Ce qui est extrêmement important, c'est que dans la Jérusalem céleste, nous avons 12 portes. Aha. Et ces portes portent le nom des 12 tribus d'Israël. Et nous voyons par conséquent qu'en fait, Éphraïm s'est multiplié et il a eu faim. Et en Yeshua, en Jésus, il a retrouvé. Il a été. En quelque sorte, Judas n'a pas reconnu le Messie, mais il a gardé la Torah, alors qu'Éphraïm a retrouvé dans les nations le Messie, mais n'a pas la Torah. Éphraïm devient le peuple du Fils, alors que Judas reste le peuple du Père. Et c'est cela le grand bouleversement. C'est ça, c'est la révélation que le Saint-Esprit est en train de donner dans les temps de la fin. Je ne suis pas sûr que la maison du Judas est prête aujourd'hui à accueillir la maison d'Éphraïm. Et quand on voit la réaction du fils aîné dans la parabole, et qu'on risque même d'accuser les descendants d'Éphraïm d'une autre forme de théologie de remplacement, si on regarde du plus près. Parce que quand l'Église des nations a voulu prendre la place des Juifs, elle s'est dite être le nouvel Israël. Mais quelque part, là, dans la théologie du remplacement, il y avait qu'aussi une parole prophétique. Elle le faisait mal, l'Église. Elle ne le comprenait pas dans sa signification. Parce qu'elle voulait remplacer Israël en condamnant, en combattant la maison de Juda. Mais c'est le même problème. Aujourd'hui, la maison de Juda, qui est revenue en Eretz Israël, proclame être Israël. Mais cela turlupine énormément les rabbins qui, aujourd'hui, Israël, plus ou moins secrètement, cherche désespérément les 10 tribus d'Israël. N'est-ce pas étrange? Dans Romains 11, quand il s'agit de quand Paul parle de l'olivier sauvage et de l'olivier franc, Romains 11, 1, 27, Paul parle d'un arbre avec deux sortes de branches. Les branches cultivées, c'est Judas. Les branches non cultivées, c'est les nations. Si toi, tu étais coupé de l'olivier naturellement sauvage, hanté à la nature de l'olivier franc, à plus forte raison, Judas, seront-ils hantés selon leur nature et sur leur propre olivier. Mais selon Jérémie 11, 16 et Osée 14, l'olivier, attention, ce n'est jamais un symbole, l'olivier, c'est uniquement un symbole de la nation d'Israël. Qu'il soit sauvage ou qu'il ne le soit pas, l'olivier n'est jamais en rapport avec un symbole des nations, mais d'Israël. Il y a trois symboles très forts que représente Israël. C'est la vigne, l'olivier et le figuier. Et tu ne peux pas plaquer l'olivier, qu'il soit sauvage ou qu'il ne le soit pas, tu ne peux pas dire que l'olivier est un symbole des nations. Mais c'est un olivier sauvage parce qu'il est devenu Manassé. Il a oublié son héritage. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lys, il poussera ses racines comme le Liban, ses rejetons s'étendront et sa magnificence, dit Osée 14, sera comme l'olivier et son parfum comme le Liban. Osée montre clairement, Paul dit que la réunion des deux branches produira le salut de tout Israël après que la plénitude des nations sera entrée. Paul insiste bien, il emploie un terme qui est en rapport avec l'alliance de Dieu avec Abraham. Après que la plénitude des nations sera entrée. Waouh ! On pourra se dire, mais est-ce qu'il va y avoir de la place pour tout le monde ? Mais ça, je suis bien d'accord. Ça, c'est une autre question. La phrase « plénitude des nations » traduit bien le grec. Or, la plénitude des nations, c'est l'expression employée pour qualifier les descendants d'Éphraïm. Rappelez-vous, dans la bénédiction de Jacob, Éphraïm sera la plénitude des nations. Amen. Ce que d'ailleurs Second traduit un peu étrangement. En fait, aucun verset de la Bible ne prévoit le salut d'Israël grâce à la conversion des païens. Écoutez bien ce que je vous dis, parce que cet enseignement-là, on l'a très peu. Je répète, aucun verset de la Bible ne prévoit le salut d'Israël grâce à la conversion des païens. Mais au contraire, tout Israël, c'est-à-dire, quand vous avez tout Israël, ça veut pas dire tous les habitants, ça veut dire les 12 tribus. Tout Israël fait allusion à une expression juive qui veut dire les 12 tribus. Tout Israël sera sauvé si les descendants d'Éphraïm, c'est-à-dire la plénitude des nations, reviendront d'exil et se réuniront à la maison de Juda. À ce moment-là, vraiment, tout Israël sera sauvé. tout Israël sera sauvé. La réunion des branches d'Israël et de Juda. Paul fait allusion à la très belle prophétie d'Ézéchiel 37, 15 et suivant, décrivant la future réunion des deux maisons d'Israël symbolisées par des branches. Remarquez qu'en hébreu, le mot bois, branche, arbre sont les mêmes mots. Et la parole de l'Éternel vient à moi disant, et toi, fils d'homme, prends un bois, écris dessus pour Juda hein, et pour les fils d'Israël, ses compagnons. Et prends un autre bois, écris dessus pour Joseph, le bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël, ses compagnons. Rapproche-les l'un de l'autre pour qu'ils soient un seul bois et ne seront plus que dans ta main. Et quand les fils de ton peuple te parleront, disant, ne nous déclares-tu pas ce que signifient pour toi ces choses. Dis-leur ainsi dit le Seigneur, voici je prendrai le bois de Juda qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël, ses compagnons, et je le mettrai sur celui-ci, savoir sur le bois de Juda, et je le ferai être un seul bois, et ils seront un dans ma main. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Dans Éphésiens 2, 11-20, Paul parle de la réunion des deux types de personnes. C'est pourquoi souvenez-vous que vous, autrefois, les nations dans la chair, qui étiez appelés incirconcis par ce qui est appelé la circoncision, fait de main dans la chair, vous étiez en ce temps-là sans Messie, sans droit de cité et étrangers. Hein? Donc Paul, je ne peux pas relire tout le passage, je n'en ai pas le temps. Paul aussi fait allusion à cela. Hein? Maintenant, vous devenez ceux qui sont près, ceux qui sont loin, vous devenez un seul peuple. Vous qui étiez prêts, vous qui étiez loin. Dans le contexte de Daniel 9, la phrase « ceux qui sont prêts », en fait, on voit aussi dans Daniel 9, fait allusion à la maison de Juda exilée à Babylone, dont Daniel lui-même était membre. Et la phrase « ceux qui sont loin » fait allusion à la maison d'Israël exilée en Assyrie. Verset 14, Paul dit que pour réunir ces deux personnes, dans Éphésiens 2, hein, Yeshua a détruit le mur mitoyen de clôture. Le mur mitoyen de clôture. Or, le mot clôture traduit le mot grec qui veut dire phragmos, hein, qui est traduit par un enclos pour les bergeries. Amen. Alors, qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons une chose qui est très importante. Dans sa première lettre, l'apôtre Pierre s'adresse aux étrangers. Pierre, apôtre Yeshua, le Messie, ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galicie, Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Dans 1 Pierre 2, 10, Pierre compare ces étrangers à la prophétie d'Osée chapitre 1, verset 4. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant obtenez miséricorde. 1 Pierre 2, 10. Autrement dit, Pierre reprend l'expression de Osée. Il reprend ce que dit Osée sur les deux peuples. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, qui n'avait pas obtenu miséricorde? Les nations? Non. Éphraïm. Donc Pierre lui-même, en quelque sorte, recopie. Et ça c'est vraiment quelque chose de courant dans le Nouveau Testament. Il reprend le texte. Et l'Éternel lui dit, appelle son nom. Alors, je peux pas développer ça. L'apôtre Jacques, il va écrire la lettre aux églises. Mais l'apôtre Jacques adresse sa lettre aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Pour les 12, pour les disciples de Jésus, il était évident que les chrétiens étaient les descendants de la maison d'Éphraïm. Et il le disait, hein, il adresse sa lettre aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Or, à cette époque, il n'y avait que la maison de Juda. Voyez, hein, Jacques, esclave de Dieu et du Seigneur, Yeshua le Messie, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. C'est-à-dire aux églises issues de la gentilité, tout simplement. Hein. Dans Genèse 28:3, il est écrit que Jacob deviendra une multitude de nations. Hein. Le mot multitude, on l'a dit, c'est en rapport avec le mot caral, la poissonnade. Hein. Mais ce qui est intéressant dans ce mot-là, dans ce que nous entendons, dans ce que Dieu est en train de faire, c'est que en fait, l'Église des nations, est, au travers de la voix prophétique, est en train de prendre conscience qu'elle est l'Éphraïm. Et au travers de cela, elle ne va pas chercher à convertir la maison juive de Juda, mais elle va chercher à révéler, à témoigner à la maison de Juda, au travers du témoignage du mouvement messianique en Israël. C'est le mouvement messianique en Israël qui est la clé qui va permettre à la maison d'Éphraïm de se relier à la maison de Juda. L'enjeu, c'est le mouvement messianique actuel. Parce que les messianiques sont descendants de la maison de Juda, bien entendu. Et parce que c'est eux qui ont un rôle essentiel. C'est pour ça qu'il faut intercéder pour eux. C'est pour ça qu'il faut prier. Ils vont devenir, dans les temps qui viennent, je dirais presque le guide prophétique pour nous ramener à la parole. Si vous voulez, je dirais que la réforme de l'Église à fin des temps, les réformateurs nous ont ramenés à la parole à travers la doctrine de la croix. Oui ? Mais à la fin des temps, ce n'est pas les réformateurs, c'est le mouvement messianique qui nous ramène pas à la parole, mais à ce qui est le centre de la parole, c'est-à-dire nous ramène aux alliances, au peuple même d'Israël. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus être constantiniens. Alors, je ne veux pas vous empêcher de fêter Noël. Et que si on vous téléphone le jour de la résurrection de Jésus en vous disant « Je te souhaite une joyeuse Pâques », répondez « Joyeuse Pâques ». Ne cherchez pas à, je dirais, choquer, à aller à l'encontre de la culture ambiante. Ne changez pas la culture. Mais que dans votre cœur, vous disiez « Ce n'est plus le temps ». De vivre comme du temps de Jéroboam. Jéroboam qui a changé, qui a fait un nouveau calendrier. Jéroboam, c'est pas Jéroboam, c'est Constantin, mais c'est la même chose. Non, c'est le temps où l'Église des nations, et ça, je le prêche, je l'enseigne dans tous les pays francophones où je vais. C'est le temps où nous disons, Seigneur, il nous faut plus profondément revenir à la parole de Dieu. Parce que ce ne s'agit pas de judaïser, mais il s'agit de se séparer des lois constantiniennes. Il ne s'agit pas de judaïser. Il s'agit de revenir, je dirais, à la signification christique de Lévitique 23 sur les fêtes de l'Éternel. Et c'est cela que Dieu est en train de faire. Il est en train de nous, j'ai envie de nous dire, je veux dire, que Israël, que Dieu est en train de nous. Les nations vivent un décalage, mais assez curieusement, Dieu est en train de lever son peuple éphraïmite dans les nations. Il est en train de susciter un mouvement de l'esprit aujourd'hui. Mais ce peuple-là est en train de se tourner vers Israël en lui disant « Es-tu vraiment Israël ? Ne serais-tu pas par hasard, s'il y a un hasard, la maison de Juda ?» Je ne suis pas tout à fait sûr que le frère aîné sera prêt à nous accueillir dans ses bras. Il faut comprendre une chose, ce que dans cette réunification telle que Paul l'a décrite dans Éphésiens 2, il y a une fausse église qui est en train de se lever. Regardez ce qui s'est passé le 15 septembre 2015. Regardez, écoutez les nouvelles. Et cette fausse église n'est pas prête à reconnaître quoi que ce soit d'Israël. Elle est bien ancrée dans les fêtes constantiniennes. Elle a sa bonne théologie augustinienne. Il va falloir que dans les décennies qui viennent, l'Église dans les nations choisisse entre la maison de Juda ou la maison de Constantin. C'est tout ce que je peux dire. Et ce que je peux dire ceci, c'est que si nous comprenons ce que c'est, parce qu'il ne s'agit pas à partir de demain de porter une kippa. Il ne s'agit pas de dire, ben, puisque c'est ça, on va faire respecter le Shabbat. Moi, c'est égal, le Shabbat, je respecte, parce qu'on a déjà les fêtes, on a déjà les séminaires le samedi et le dimanche. Vous pouvez, mais ce n'est pas là la question. La question, c'est de percevoir, grâce à l'aide, et merci à toi Thierry, merci pour toute la richesse que tu nous apportes à travers la parole. Mais ce n'est pas, oh, c'était pas à la maison de Juda de se tourner vers Yeshua, quoique si, quelque part. Si, on est d'accord. mais c'est plutôt à Éphraïm de se tourner vers le mouvement messianique et dire « Enseigne-nous ! Enseigne-nous la parole ! Enseigne-nous afin que nous soyons reliés profondément à la signification hébraïque et plus grecque, à la signification hébraïque de la parole, à la signification christique des faits de l'Éternel, pour véritablement comprendre ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Et c'est cela qui va amener la véritable réforme. C'est par cette unité, relisez Romains 11, relisez Osée 6, Osée 4, Osée 6 ou 7, je ne sais plus, eh bien, c'est par cette unité que la moisson va se lever. Gloire à Dieu. Et c'est pour ça que nous devons profondément comprendre que si la maison de Judas est restée fidèle à la Torah, eh bien, à la fin des temps, ce sont les 10 tribus qui, elles, seront restées fidèles au Messie. Et c'est ça la beauté et la grandeur de l'histoire, c'est qu'en séparant ces deux peuples, en les jugeant, Dieu, finalement, va accomplir pleinement l'alliance qu'il a faite à Abraham. Une postérité nombreuse, l'héritage de la terre de Canaan et une multitude de nations. Et c'est pour ça que nous pouvons réentendre l'extraordinaire parole de Paul dans Romains 11, et c'est là où je termine mon message. L'extraordinaire message de Paul, nous allons ouvrir Romains 11, c'est terrible. Je ne peux pas garder une Bible plus de 4 ans, je ne sais pas pourquoi, elle se déchire. C'est terrible, elle se déchire et tout, j'en suis pas, je ne peux pas vous compter le nombre de Bibles que j'ai massacrées. Mais tu ris, mais c'est pas drôle. Parce que chaque fois que je rachète une Bible, je suis forcé de la relire pour re-signer tout. Qu'est-ce que je comprends pas? Ah oui, oui, oui. Non, je déchire rien, mais je casse. Alors, j'en ai. Non, il n'y a plus rien à faire. Non, non, mais il n'y a que le Seigneur qui peut résoudre le problème. Amen. Ah mince, c'est Romains 11. Ah là là, j'y arrive pas. Si, le voilà quand même. Écoutez bien cela. Et ça, c'est la clé de la moisson qui vient. C'est dans Romains 11, verset 15. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, quelle sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? C'est-à-dire que, en fait, en revenant à nos racines, Dieu va amener la transformation même des nations, d'une multitude de nations. C'est ce qui revient à la promesse qui est écrite dans Zacharie 2, plusieurs nations seront appelées mon peuple. Hein? Et on voit cela qui, cet extraordinaire, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables, ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur, qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour, c'est de lui et par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui soit toute la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Pourquoi je vous dis cela, mes amis? Parce qu'il y a une guerre spirituelle au-dessus de nous. Parce qu'il y a un combat au-dessus de nous. Et qu'il ne s'agit plus aujourd'hui d'entrer dans le politiquement correct. Il s'agit aujourd'hui d'être profondément attaché à la parole de Dieu. Non pas dans la crainte de judaïser, mais tout simplement de comprendre ce que le Seigneur est en train de faire pour les quelques décennies qui restent avant le retour de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons parce qu'il y a une multitude de nations. Il y a une multitude, il y a une postérité nombreuse. C'est cela qui est au cœur de notre soirée. Merci Seigneur. Il y a une multitude et que Dieu t'utilise à travers l'autorité du nom de Jésus, la puissance du sang de Jésus. Dieu t'utilise, Dieu veut utiliser la nouvelle génération qui se lève pour être des leaders dans les nations, pour posséder l'héritage des nations. Amen. Et c'est cela que le Seigneur est en train de faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un défi qui est levé au peuple de Dieu dans les nations. Et ce défi, c'est ceci. C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est finalement ce défi ? C'est est-ce que tu ne vois pas que, à cause de l'héritage de tes pères, Dieu est en train de t'ouvrir un chemin de lumière et qu'il faut y aller ? Il faut y aller. Mais ce n'est plus le temps de pleurer, c'est le temps de se réjouir. Ce n'est plus le temps de l'apitoiement, c'est plus le temps, c'est le temps de la crainte de Dieu. C'est le temps où nous devons nous sanctifier, parce que le monde est en train d'être secoué, aucun de nous ne sera épargné. Et que si nous comprenons que nous sommes en train, il y a un défi, que Dieu est en train de nous tracer un chemin. Qu'est-ce que ça veut dire un chemin dans les nations ? Ça veut dire qu'il y a un témoignage que nous devons apporter. Un témoignage, pas seulement du retour de Jésus, parce qu'il est le roi du roi et parce qu'il va régner sur la terre. Oui, ça nous l'apportons. Mais le témoignage, c'est que Dieu a choisi un homme, Abraham. Il s'est choisi un peuple. Il y avait 12 tribus. Et aujourd'hui, il les rassemble. Et rien n'empêchera cet rassemblement. Aujourd'hui, des centaines, peut-être des milliers d'Israéliens ont des songes et des visions. Des rabbins sont en train de se convertir. Aujourd'hui, des musulmans se tournent vers Issa, vers Jésus. Aujourd'hui, nous ne le voyons pas, parce que ce n'est pas visible, on ne l'entend pas dans les journaux, mais il y a une énorme révolution spirituelle qui est en train de venir. Et nous, eh ben, nous devons comprendre qu'on se positionne dans l'intercession, d'abord. On se positionne dans la proclamation de la puissance du nom de Jésus. On appelle la bénédiction de Dieu sur Israël. On appelle la bénédiction de Dieu sur les nations. Nous allons passer 7 années de sécheresse, 2016-2022. La pluie va cesser, ou plutôt il va pleuvoir, mais ça, les réserves de l'eau vont cesser. C'est comme si la terre allait se mettre à sécher. Pourquoi ? Parce que Dieu veut entendre la soif des hommes. Dieu veut entendre la soif et la faim des hommes. La terre ne sera plus, c'est quelque chose qui est marquant pour ces 7 années qui viennent, c'est que c'est comme si la terre, elle ne pouvait plus nourrir. Et la seule nourriture que nous pouvons apporter, c'est celle de la parole. C'est à travers le témoignage de la parole que Dieu va libérer des sources d'eau vive. Je le dis autant dans le spirituel, dans le figuré que dans le physique. Ce n'est pas la sécheresse qui doit nous affoler. Elle est simplement le reflet du cœur de l'homme qui est sec, qui a soif de Dieu. C'est simplement que nous sommes appelés, et nous allons le faire pendant ces 7 ans, nous sommes appelés à libérer des sources. Nous sommes appelés à libérer des sources. Et parce que les hommes crieront leur soif et leur faim, que Dieu, au bout des 7 ans, ouvrira les écluses des cieux. Amen. C'est un combat. On est dans une sorte de déclin où les hommes n'auront plus de solution, ni pour les systèmes économiques, ni pour les systèmes politiques ou éducatifs ou autres, mais où l'homme va prendre conscience de sa soif. Et la seule solution, la seule issue, c'est que vous et moi, nous avons des sources, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de leur sein. C'est la foi en Yeshua, à Machiar. C'est la foi en Jésus-Christ que seules les sources peuvent jaillir pour abreuver un monde qui aura totalement soif. Alors prions. Je peux demander à quelques musiciens de venir. Seigneur,